Avertissement. Le contenu qui suit ne conviendra pas à tous les auditeurs. Il peut contenir des scènes de violence ainsi qu'un langage cru. Veuillez procéder avec caution.
Eh oui, bienvenue à Mauvaise Augure, c'est moi votre hôte Frédéric. Aujourd'hui, je vous présente un cas que j'ai trouvé super intéressant à rechercher, les Bobettes, un jeune couple de belle apparence qui ont marqué le début des années 90 avec des événements qu'on pourrait dire assez perturbants. Ah, les belles années 90, appelées aussi l'époque du Viagra et des Bobettes, une époque où le mot pénis était proscrit des médias et journaux. C'est une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre, mais on pourrait dire aussi beaucoup de sang. Mais avant de débuter, j'ai quelques annonces à faire. Pour donner votre avis sur le dossier ou simplement voir les photos ou documents liés aux épisodes que je publie, vous pouvez trouver tout ça sur le groupe Facebook. C'est un groupe privé. Juste à rechercher Mauvaise Augure Podcast. Pour les navets du crime, j'ai eu plusieurs commentaires des auditeurs. Donc j'ai décidé que j'allais en publier plus fréquemment. Donc, à peu près aux 3 épisodes. Et pour vous avouer, je crois pas manquer de matériel d'ici demain matin, parce que du monde imbécile qui ont besoin d'argent, il y en a beaucoup sur la planète, faut croire. Et aussi, le Patreon qui sort d'ici une semaine maximum, avec du matériel exclusif, les épisodes publiés à l'avance pour une modique somme de 2-3$ par mois. Donc, manquez pas ça. Dernière chose avant de débuter, c'est un cas qui touche la violence conjugale, donc si vous vivez dans une relation abusive, que ce soit physiquement ou psychologiquement, c'est la même chose. N'hésitez pas à aller chercher de l'aide autour de vous, contactez vos organismes locaux. Sérieusement, faites-vous pas berner par les belles paroles de votre conjoint ou conjointe, c'est bien rare que ça va en s'améliorant, pour pas dire jamais même. Donc, allez chercher de l'aide, je vais mettre des liens dans la description de l'épisode aussi, et le graphique pour savoir à quel degré vous êtes dans une relation abusive. Je l'avais déjà publié. Il n'y a personne qui mérite de se faire traiter comme ça. Ceci dit, on va débuter avec le dossier d'aujourd'hui. Ça s'est produit aux États-Unis encore, une histoire de fou. Qui se passe aux États-Unis pour faire changement? C'est dans une petite ville, Manassas, qui se situe dans la Virginie du Nord, avec une population d'environ 38 000 habitants. Ah oui, pour ceux qui ne savaient pas, cette histoire-là, en gros, c'est une femme qui a coupé le pénis de son mari pendant qu'il dormait. Et d'après une étude au moment des événements, 60% des Américains suivaient le développement de cette histoire et les procédures judiciaires liées. Et ça, on parle juste aux États-Unis, c'est sans compter le reste de la planète. Comme la majorité du monde qui ont connu l'histoire à l'époque, j'étais très peu informé sur le sujet. Ça, c'est en partie dû au sensationnalisme et la façon si peu professionnelle des médias de couvrir les événements. Puis, ça, c'est pas juste dans ce dossier-là, ils font ça souvent et ça n'a pas changé avec le temps. La question est, qu'est-il réellement arrivé pour que Lorena en vienne à un geste aussi brutal et inimaginable? Pour être franc avec vous, c'est très dur de savoir le fond de l'histoire parce qu'on sait pas c'est qui vraiment qui dit la vérité. Les deux mentent, ça c'est évident. La majorité des renseignements que je vais vous relater viennent surtout de la série documentaire qui se nomme Lorena. Côté production, c'est bien fait. Ils ont soucié du détail, peut-être même un peu trop. C'est 4 épisodes de 1 heure. J'aurais résumé ça en 2 épisodes de 1 heure. Et j'ai été désagréablement surpris, on dirait qu'ils ont fait exprès, pour glisser 2 photos assez explicites de la partie coupée de John Bobbitt. Je m'attendais pas à voir ça dans un documentaire qui semblait assez... pas pour toute la famille, parce que ça parle de viol et de violence conjugale, là, mais pas au point de montrer des photos aussi gore. Non, on dirait vraiment que le gars au montage vidéo est fait exprès. T'es là, ben relax, à écouter un documentaire, puis tout d'un coup, hein, y a 2 photos qui vont te marquer jusqu'à la fin de tes jours. Non, j'ai pas aimé ça. Je m'attendais pas à voir ça. J'ai pas demandé à aller voir non plus. Je donne 9 étoiles sur 10. Non, c'est pas vrai. Je donne moins que ça parce que c'est trop long. Étant donné que les deux ont leur retard dans l'histoire et que des années après, ils ont l'air d'accepter les événements du passé, puis qui ont l'air quand même assez narcissiques. Donc, je me suis dit que j'allais me faire un petit défi qui consiste à ce que je vais utiliser juste une seule fois chaque nom commun ou expression pour désigner les parties intimes de John Bobbitt. Je dois vous avouer que je sais pas trop pourquoi je justifie mon défi. C'est pas par manque de respect que je le fais, c'est surtout que sinon ça va être redondant d'entendre tout le temps les deux, trois mêmes termes. Je le fais aussi en mémoire des médias de l'époque, parce que ça devait être bien compliqué d'écrire un article sans utiliser le mot pénis quand l'histoire c'est un pénis qui s'est fait couper. Et d'essayer de rester professionnel. Et moi, bien sûr, je vais utiliser des termes qui ne le sont pas du tout. J'en ai trouvé des assez cocasses que j'avais jamais entendus, donc ça va mettre de la légèreté dans l'histoire et les événements. J'ai dit deux, trois fois le mot pénis de suite, c'était voulu avant de commencer le défi pour vrai. C'est là que ça part. C'est aux alentours de 5h du matin que les urgences reçurent un appel par un homme en détresse. Semble-t-il qu'il avait subi de graves blessures à l'arme blanche. Les secours en arrivant à l'appartement ont pu découvrir une scène assez horrible. Il y avait du sang partout, et un homme très mal en point se trouvait dans le logement. Le pauvre était ensanglanté et semblait blessé à l'abdomen. Mais les secouristes, après très peu de temps, ont vite pris connaissance que l'homme avait le dard coupé. Bien sûr, c'était John Wayne Bobbitt, un méchant crise de loser. Donc, mes chers auditeurs, là, vous allez devoir utiliser votre imagination car les trois prochains paragraphes se déroulent presque au même instant. John sera transporté alors d'urgence aux soins intensifs. À son arrivée, il avait déjà perdu le tiers de son sang. La blessure était propre et faite avec précision, d'un seul geste. Seule la graine du patient avait été coupée. Le scrotum et les testicules étaient toujours où ils devaient se trouver. N'ayant pas la bite de la victime, l'urologue Jim Sheen n'avait pas beaucoup d'options qui s'offraient à lui. La seule alternative était pour John de lui insérer un tube jusqu'à la vessie et qu'il serait dans l'obligation de faire ses besoins assis pour le reste de sa vie. Pendant ce temps, les policiers qui ont répondu à l'appel et qui étaient présents à l'appartement des Bobbitt ont fouillé les lieux du mieux qu'ils pouvaient. Étant donné que c'était une scène de crime, ils ne pouvaient pas trop déplacer les éléments. Après quelques temps, ne trouvant pas le bout de saucisse amputée, les policiers ont alors hypothésé que Lorena l'avait peut-être mangé. En effectuant la fouille, ils ont pu remarquer des brochures et des pliants concernant le viol et la violence conjugale. Au même moment, pour Lorena, ça semble assez nébuleux, elle ne se souvient pas des événements vraiment, elle s'est réveillée au volant de sa voiture, elle ne savait pas trop où aller, donc elle s'est dirigée, c'est sa bonne amie, qui était aussi son employeur, Jana Bizzuti. Qui, après avoir entendu la folle histoire de Lorena, était assez abasourdie. Donc Lorena s'est calmée, elle a appelé la centrale de police pour ensuite s'y rendre et reporter qu'elle a été victime de viol et de violence conjugale. Elle semble avoir complètement oublié les événements qui se sont produits. Le policier lui alors répond « Oui, bien sûr, mais avant toute chose, seriez-vous au courant où se trouve le bout de pogo de votre époux John? » Car bien sûr, plus le temps s'écoule entre l'amputation et la greffe, plus les chances de réussite diminuent. Lorena eut l'air vraiment surprise par cette question et répondit à l'officier de fouiller l'appartement. Mais après avoir été mise au courant que c'était déjà fait et que les policiers n'avaient rien trouvé, Lorena sembla tenter de se rappeler les événements. Après un court instant, la mémoire lui revint enfin. Elle déclara alors qu'elle s'était réveillée au volant de sa voiture, le volant d'une main et le bout d'esgueg dans l'autre. Encombrée et un peu écœurée par le môme sanguignolant dans la main, elle décida alors de le lancer par la fenêtre alors qu'elle roulait. Elle leur indiquait alors où ce qu'elle l'avait lancé. C'était tout près d'une station-service 7-Eleven. Les policiers, sans perdre un instant, se rendirent sur les lieux pour effectuer une fouille. Après quelques temps, ils ont pu trouver le bout de flûte à un bout qui se situait dans un buisson en bordure de la route. Petit fait cocasse, c'est un sergent qui l'a retrouvé après avoir mis le pied dessus. Il a dû trouver que c'était bizarre comme ça. Ils ont pu profiter de la glace du 7-Eleven pour mettre le bout de verge dedans, pour le conserver au froid. Surprenamment, il y a très peu de policiers qui voulaient se charger de manipuler le bout de broquette. Pour John, après une longue opération de 9 heures, la greffe fut un franc succès. Par la suite, le docteur Jim Sheen déclara qu'il n'avait jamais vu une blessure aussi horrible en urologie. Et je cite, « C'était un moment vraiment unique et on ne peut pas s'empêcher d'avoir un pincement dans le bas de la poitrine. C'était vraiment affreux. » Maintenant, seul le temps nous dira si le corps de John rejettera la greffe. Le temps s'écoula et tout se passa bien. Son corps accepta la chirurgie. Il retrouva à pleine fonction de son engin, érection et tout le tralala. Lorena, pendant ce temps, coopéra entièrement avec les policiers et leur indiqua même où qu'elle s'avait débarrassée de l'arme du crime. Elle avait jeté le couteau dans une boîte ordure qui se trouvait devant son lieu de travail, un salon d'esthétique pour femmes. Un couteau de cuisine avec une lame de 8 pouces. 20,3 cm. Et donc, jour au lendemain, comme une traînée de poudre, ce jeune couple de belle apparence, qui est inconnu de la masse, est devenu le sujet de l'heure dont tout le monde parlait. La nation tout entière était au courant de cette histoire, qui va sans dire était hors du commun. Télévision, radio, journaux n'en avaient que pour les bobites. C'était tellement surréel et brutal du même coup. Maintenant, je vais vous décrire qui sont les bobites et leur version des faits. Je vais commencer avec John. Comment je pourrais décrire John? C'est une version ratée de Jean-Claude Van Damme sur l'aide sociale. Bon, il trippait sur Jean-Claude Van Damme, puis c'était son but d'envie d'y ressembler. Il me semble que c'est pas le premier. C'est quel l'autre? Oh, je me souviens pas. Je sais que j'avais fait un épisode où il y en a un autre qui trippait Jean-Claude Van Damme. Si vous savez de quoi je parle, envoyez-moi un message, me dire c'est quel épisode, ça m'intrigue. Dans une entrevue avec ABC News, John Bobbitt déclara qu'il a grandi à Niagara Falls dans l'État de New York. Il a deux frères. Leur mère était prête avec des gros problèmes de consommation de drogue. Elle ne pouvait pas vraiment s'occuper d'eux, donc les trois iront vivre chez leur oncle et tante. Maintenant rendu une famille assez nombreuse, il y avait beaucoup d'amour, mais il y avait aussi beaucoup de disputes. John se considérait comme celui qui rétablissait la paix entre les membres de la grande famille. Ouais. Tu sais, pour se redorer le blason devant le public, pas avoir l'air d'un batteur de femme. Il aimait bien le sport, surtout le basketball. Il déclarait aussi qu'il avait la mentalité de toujours finir premier. Pourtant, je comprends pas, ça n'a pas l'air du genre de gars qui accomplit grand-chose dans la vie, il est même pas capable de garder un emploi. Il a jamais vraiment travaillé. Il a servi dans la marine américaine, mais il l'a fait parce que ses amis avaient signé. Sûrement qu'il a signé sur un coup de tête, puis il a dû regretter tout de suite après. Donc, pour la version des faits de M. Bobbitt, lui, qu'est-ce qu'il a déclaré, c'est qu'après être revenu d'une soirée assez arrosée, il aurait eu une relation sexuelle avec Lorena, mais que c'était consentant, c'était pas un viol, et qu'après, il se serait endormi. Donc, ensuite, il s'est réveillé, il était couvert de sang, son lit, les draps, il y en avait partout. Là, il a regardé, il a vu qu'il avait le phallus coupé, il pensait que c'était un mauvais rêve, il s'est même, je crois, recouché un peu dans son lit pour ensuite revenir à la réalité, se lever et aller voir un ami qui se trouvait sur place. C'était un ami du couple qui dormait sur les lieux. Ah, je trouve ça bizarre parce que dans toutes mes recherches, ils n'en ont pas reparlé de cet invité-là, s'ils l'ont questionné au sujet des événements, s'il y a eu une dispute ou quelque chose. Donc John, maintenant très faible, se leva du lit et alla réveiller l'invité. Ensuite, c'est ça, ils ont appelé le service d'urgence. Est-ce que ça va être perturbant de se réveiller dans une situation comme ça? Mais au moins, il y avait encore ses couilles, sinon le choc psychologique doit être encore pas mal plus traumatisant. Si on écouterait seulement M. Bobbitt, ce n'est qu'une pauvre victime, un homme honnête qui n'a rien à se reprocher dans cette histoire. Mais la version de Lorena est beaucoup plus complexe, puis étant à une autre époque qui est pas si loin malheureusement, ça l'a fait soulever beaucoup de questions sur le viol conjugal. C'est décevant parce que même si c'est une autre époque, ça fait seulement 30 ans, et on était vraiment loin du hashtag MeToo. Le viol conjugal, c'est quoi ça? Si t'étais marié, c'est pas du viol. Qui est Lorena Bobbitt? Lorena, de son vrai nom, c'est Lorena Leonor Gallo. Elle a vu le jour à Bucay, en Équateur. Elle est l'aînée de 3 enfants. Elle a grandi dans un milieu familial normal et rempli d'amour. Alors qu'elle était âgée de 7 ans, ils sont tous déménagés au Venezuela. Son père était assistant dentaire et leur mère était femme au foyer. J'avais déjà entendu dire que pour les jeunes adolescentes, leur 15e anniversaire, c'était vraiment important. Ben, les jeunes adolescentes hispaniques. Mais son père, étant dans une situation financière assez difficile, n'avait pas beaucoup de moyens pour commémorer l'événement. Donc, Lorena lui demandera modestement un voyage aux États-Unis pour son 16e anniversaire. Donc, un an s'écoule et elle fait son voyage, elle atterrit à Washington, elle tombe en amour avec les États-Unis, et dorénavant, elle sait qu'elle veut devenir une citoyenne américaine. C'est en 1988, alors que John Bobbitt et des amis assistent à un bal ou une soirée en l'honneur des officiers de la marine. Il rencontrera Lorena pour la première fois. C'est dans une entrevue télévisée que John déclara que Lorena l'avait attirée dès cet instant. Elle était jolie, timide, petite et avait un joli accent. Pour ajouter qu'elle ne parlait presque pas anglais. Moi, je pense qu'elle l'attirait aussi parce que ça semblait être une proie facile. Ils se fréquentèrent quelques mois pour ensuite unir leurs liens par le mariage le 18 juin 1989. D'après Lorena, il s'est écoulé seulement un mois après leur mariage pour que John commence à être violent avec elle. Au fil du temps, les disputes devenaient de plus en plus violentes. La bonne vieille mentalité, quand tu mariais quelqu'un, il t'appartenait. J'ai jamais été pour le mariage, mais si ça vous prend ça pour prouver votre amour, je juge pas personne. Pendant leur relation, John n'a jamais su garder un emploi. En plus, il aimait bien ça prendre un coup. Et d'après beaucoup de témoins, quand venait le temps de payer l'addition, c'était le genre de gars qui oubliait souvent son portefeuille. En d'autres mots, c'est tout le temps Lorena qui payait, puis c'est elle qui travaillait, puis c'est elle qui ramenait le pain dans l'assiette. Pendant que lui foutait rien puis buvait. Et semble-t-il que quand le couple était vu dans les commerces en train de faire des achats, c'est Lorena qui traînait tous les sacs. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est ça, Lorena, sa version, c'était que John était arrivé à la maison ivre et il l'avait agressé sexuellement, violé. Et qu'après, elle est allée chercher un verre d'eau, puis qu'elle a pris un couteau, et puis là, elle se souvient pas vraiment ce qui s'est passé. Ensuite, c'est devenu un vrai cirque médiatique, un peu n'importe quoi. Et venu le temps des procès, bien sûr, il y a eu deux procès qui ont eu lieu. Le premier procès, c'était contre John Bobbitt pour les charges de viol contre lui. Et le deuxième procès, c'était contre Lorena Bobbitt pour avoir coupé le grand chauve de son époux. Et bien sûr, ça a été énormément couvert par la presse. Les deux procès se ressemblaient quand même. C'était du genre, il dit, elle a dit, la parole d'un contre la parole de l'autre. Qui c'est qui a fait quoi? Pour le procès de John, il risquait la prison à vie s'il était jugé coupable pour viol. Lorena fera son témoignage et déclara que John l'a violé ce soir-là, comme j'ai dit, et que ça faisait plusieurs années qu'elle était victime de violence conjugale. Et ce n'est pas la première fois qu'elle se faisait violer ou agresser sexuellement par John. Pour la défense de John, son avocat déclara que son client ne pouvait pas mentir, car d'après des tests psychologiques qui ont été effectués, il ne serait pas capable de créer des histoires complexes. En d'autres mots, que son client est trop stupide. Mais c'est un argument de marde parce que même un enfant de 3 ans est capable de mentir. J'ai vu un de ses témoignages en cours et c'est pas mal monosyllabique.
J'y ai pas fait mal, je l'ai jamais frappé. J'ai jamais frappé, mais je l'ai déjà poussé à terre, j'ai déjà maîtrisé et retenu, mais je l'ai jamais touché.
J'exagère presque pas, là. OK, il a peut-être l'air un petit peu moins ortho, mais il dit vraiment ça. Après ça, l'avocat de John déclara qu'il y a eu 4 appels qui ont été faits aux urgences pour violence domestique avant le soir du dit viol. Les 4 fois, c'était contre Lorena. Il y a 3 fois que c'est John qui a appelé, et la 4e, c'était la mère de Lorena qui s'adonnait à être présente pendant une de leurs disputes. Je sais qu'il y a beaucoup d'appels qui ont été faits par Lorena contre John, mais je suis pas sûr s'ils en ont parlé dans le premier procès. Ils en ont parlé dans le deuxième, en tout cas. Comme je l'ai dit, très gros procès médiatisé. Ça a dû coûter une fortune aux contribuables pour que John soit acquitté des charges de viol. Et si j'ai bien compris, toutes les procédures judiciaires et le procès étaient complètement inutiles. Vous vous demandez pourquoi? Je vais vous l'expliquer de là. Car à l'époque, pour qu'une femme puisse gagner des charges de viol contre son époux, il y a seulement 2 options qui s'imposaient. La première est que les 2 personnes étaient séparées ou en procédure de divorce. Et la 2e option est que le viol ou l'agression sexuelle ait laissé des ecchymoses, marques ou blessures sur la victime. Et comme on a pu voir, les 2 critères ne s'appliquent pas dans l'histoire de Bobbitt. Maintenant, le procès contre Lorena. Lorena opta pour un plaidoyer de non-culpabilité. Et si elle se trouvait coupable, elle risquait jusqu'à 20 ans de prison pour des charges d'assaut avec lésions. Sa défense était folie passagère due à des chocs post-traumatiques. Une manœuvre très risquée car dans l'histoire des procès devant jury aux États-Unis, la défense de folie passagère n'a jamais eu de grand succès. Pendant son témoignage, Lorena décrira les années d'abus physiques et psychologiques, les viols, le mauvais traitement subi par John. Il lui aurait pas laissé le choix de se faire avorter, et il lui aurait aussi montré une feuille avec tous les noms des femmes avec qui il l'aurait trompé. Donc, le soir des événements, comme je l'ai dit, elle a pas trop de souvenirs. Elle se souvient que John est arrivé avec leur ami, que c'est ça, après ça, il l'a violé. Quand il s'est endormi, elle est allée à la cuisine se chercher un verre d'eau. Elle a vu un couteau sur le comptoir. Elle l'a empoigné, puis elle s'est remémoré tous les mauvais traitements qu'elle avait subis par John. Mais elle se souvient plus après c'est quoi qui est arrivé. Ensuite, elle s'est réveillée dans sa voiture sur la route, le volant d'une main et la tube ensanglantée de l'autre. Et pour la suite, vous connaissez déjà. La procureure Mary Grace O'Brien a plus d'un tour dans son sac. Elle fera entendre aux membres du jury un extrait tiré de transcript de l'interrogatoire de Lorena le soir des événements. On peut l'entendre dire à l'enquêteur qui l'interroge que si elle a commis l'impensable, c'est que pendant l'acte de reproduction, John avait toujours un orgasme, mais il n'attendait jamais qu'elle atteigne l'orgasme. Plusieurs personnes viendront aussi témoigner à la barre, dont d'anciens collègues de travail de Lorena. Une d'elles déclarera que pendant un quart de travail, elle, Lorena et d'autres employés parlaient d'adultère et de ce qu'elle ferait à leur époux si elle se ferait tromper. Semble-t-il que Lorena aurait répondu qu'elle couperait l'arrosoir de son mari. Il sera aussi démontré que Lorena a volé 7 000 $ à son employeur et a aussi eu une charge de vol à l'étalage dans un commerce à rayons. Quand elle fut interrogée sur le sujet, Lorena a répondu qu'elle avait volé des vêtements au commerce parce que John n'arrêtait pas de la rabaisser et lui dire que ses vêtements n'étaient pas beaux. Pour l'argent, ben, j'imagine que c'est pour arrondir fin de mois parce que... Tant que John travaillait pas, il buvait, puis il avait l'air de la contrôler, puis contrôler son portefeuille. Il y a aussi un très bon ami de John qui était témoigné contre lui en disant que il avait entendu John se vanter qu'il aimait bien le sexe violent et faire mal à ses partenaires, puis ce qu'il turnait on, c'était de les voir hurler, se débattre en pleurant. Une vraie crise de vidange, comme j'ai dit. Surprenamment, à la fin du procès, Lorena sera acquittée des charges, mais elle devra passer 45 jours dans un hôpital psychiatrique pour une évaluation mentale. Je comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait avant le procès, l'évaluation psychologique, là, mais en tout cas. Donc, rendu à ce point, leur histoire avait déjà fait le tour de la planète, l'Europe, jusqu'au Japon, les médias harcelaient les hobbits. Le milieu de l'humour a frappé fort, tous les humoristes avaient une blague ou un segment sur le sujet dans leur spectacle. David Letterman en est même venu appeler couramment Lorena sa petite amie. Howard Stern, qui a jamais été mon préféré, il avait un petit penchant pour John. John a même fait une couple d'apparitions sur son show. Stern, on sait comment qui est, mais il a vraiment abusé, je vais vous dire, une couple de ses citations au sujet de Lorena. Je pense pas que John la violait, elle est même pas si jolie. En plus, elle n'a pas une belle peau, je pense qu'elle manque de vitamine bobite. Il n'y a pas un pervers qui mérite ce que cette salope-là lui a fait subir. En plus, Stern fera un genre de téléthon pour aider financièrement John. Ce fut diffusé la veille de l'année 1994. Pendant la diffusion, ils ont fait une reproduction parodique de l'événement qui est arrivé avec Lorena. Mais dans cette version, c'était John qui était la victime et il n'avait rien à se reprocher. Croyez-le ou non, ils ont pu ramasser 260 000 $ américains en 5 heures. Sérieux, l'être humain m'épate. Ça, c'est l'équivalent de 472 000 $ américains d'aujourd'hui. Je suis sûr que tu demanderais à tous ces donateurs-là qui ont donné de l'argent pour cette cause stupide pour en donner pour la malnutrition, puis 80% d'eux autres refuseraient. Ah, la belle Amérique. Donc John, c'est ça, il sautait les pieds joints dans le jet set américain. Il est devenu une célébrité du jour au lendemain, puis il appréciait ça, étant donné que c'est un minable narcissique. Il ne manquait jamais une occasion de se montrer en public et acceptait pas mal tous les contrats qui lui étaient offerts. Apparitions télévisées, entrevues journalistiques, talk show. J'imagine pour des raisons pratiques, ensuite il déménageait à Las Vegas. Nightlife, baby. En plus de toutes ses apparitions un peu partout, il fera même un genre de spectacle d'humour où le principal numéro et sujet, c'était bien sûr en lien avec l'histoire avec Lorena. Et tenez-vous bien, ça m'a surpris moi aussi. Fut un temps où ce que John Bobbitt avait sa licence pour unir des amoureux par les liens du mariage. Ouais. J'imagine ça devait être dans une petite chapelle miteuse à Las Vegas à côté de l'imitation d'Elvis. Il a même aussi trempé dans le milieu de la pornographie. Ouais, il a fait des films tels que John Wayne Bobbitt, Uncut, et aussi un autre qui s'appelle Frankenpenis, je pense. Frankenstick. Dans ce grand classique, semble-t-il qu'on peut voir une scène authentique d'une chirurgie où John Wayne Bobbitt se faisait grossir le pénis. Lorena, elle a tenté de rester low profile le plus longtemps qu'elle pouvait. La première entrevue qu'elle a donnée, c'était pour un magazine. Puis il y a eu un photoshoot assez bizarre. On pouvait avoir en maillot de bain, en pose sexy. Sur d'autres, c'était avec un chandail de Mickey Mouse. Donc John Wayne Bobbitt, qui est une vraie vidange, qui a toujours tenté de se faire passer pour une victime, qui a jamais été violent avec les femmes. Bizarrement, dans les années après, il y a eu beaucoup de charges de violence conjugale encore. Ça, avec 3 femmes différentes, une des peines les plus longues qui a été emprisonnée, c'est 15 mois. Il prétendra que ces femmes-là l'utilisaient pour sa renommée, puis qu'il a jamais fait de mal à personne. Il a jamais su garder un emploi. Il s'est blessé il y a quelques années, semble-t-il, dans un accident d'auto, et il a mal au dos, et il peut plus. Il semble-t-il qu'il peut plus travailler à cause de ça. Et un classique, il n'y a rien de plus dur à prouver qu'un mal de dos ou des mal de tête chroniques. L'excuse des lâches. Et aussi, c'est un fervent amateur de chercher des trésors. Le rêve de toutes les lâches. Trouver un trésor ou gagner à l'auto. Je suis tombé sur un article aussi qui disait qu'il avait perdu un orteil à cause d'une infection puis que ça se pouvait qu'il se fasse couper un pied. J'ai pas trop suivi les développements après, mais je m'en fous un peu. Il peut même pourrir de partout tant qu'à moi. Pour Lorena, dans les dernières années, les choses semblent aller quand même assez bien. Il y a un long métrage qui est sorti sur l'histoire. Il y a aussi le documentaire que je vous ai parlé. Elle a un conjoint de longue date du nom de David Bellinger. Les deux se fréquentent depuis plus de 20 ans. Et ils étaient déjà amis avant leur union. Ils habitent à Gainesville, en Virginie, et ils ont une fille ensemble qui doit avoir 16 ans aujourd'hui. En 2008, elle a créé un organisme pour aider les victimes de violences conjugales du nom de Lorena Red Wagon. Plus tard, le nom de l'organisme sera changé pour Lorena Gallo Foundation. Donc, ça fait pas mal le tour. J'avais hâte de finir l'enregistrement. C'est la grosse canicule en studio et je peux pas mettre de ventilation parce que c'est pas plaisant pour vous, mes chers auditeurs. Donc, pour conclure, je disais que Lorena avait menti. Je vais m'expliquer. Je suis sûr qu'elle se souvient des événements le soir qu'elle a coupé le petit soldat de son John. Je dis pas qu'elle a menti sur les mauvais traitements qu'elle a subis. Ça, c'est prouvé. Il n'y a aucun doute là-dessus que John, c'est une vraie marde. Peu importe. Tant mieux si elle s'en est sauvée avec aucune peine de prison. Cette histoire-là a aidé beaucoup pour l'avancement du droit des femmes, car en 1994, il y a une loi qui a été passée pour protéger les femmes des viols conjugales. Mais je pense pas que Lorena était aussi innocente qu'elle laissait paraître, parce qu'en 1998, 5 ans après les événements, elle a eu des charges d'assaut sur sa propre mère. Elle a été acquittée par un doute raisonnable, mais le juge la croyait vraiment coupable. Donc, c'est une histoire de fou. Je veux vous remercier d'avoir pris de votre précieux temps pour avoir écouté ça. Si vous avez aimé, partagez avec vos amis, likez les épisodes sur les plateformes de podcast. Si vous voulez de la marchandise Mauvaise Augure, vous pouvez aller sur Redbubble, chercher Mauvaise Augure. Le lien est dans la description de l'épisode. Ainsi que les liens pour rejoindre les organismes d'aide contre la violence conjugale. Donc sur ce, faites attention à vous et surtout n'oubliez pas de barrer votre porte et fermer vos volets.
Le meurtre prémédité.
De nombreuses recherches qui avaient été effectuées.
Le mobile du crime est toujours inconnu pour l'instant.
Ha ha ha.